France Inter.
L'invité au carré aujourd'hui.
Marie-Monique Robin, réalisatrice, journaliste et écrivaine.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Influence marquante, source d'inspiration, rencontre décisive, combat, engagement. Tous les vendredis, on rembobine le fil du récit de notre invité pour comprendre comment son histoire personnelle résonne avec les grands enjeux de notre époque. Aujourd'hui, je reçois une warrior du journalisme d'investigation. Elle a reçu le prix Albert Londres en 1995. Trafic d'organes, dictature sud-américaine, OGM, Monsanto, pesticides, mais aussi ville en transition, femmes battues, pédophilie, microbes ou pandémie. Ces sujets d'enquête dessine le portrait d'une battante infatigable et qui n'a pas froid aux yeux. À travers ses documentaires et ses livres, elle a bravé des menaces, de nombreux obstacles pour apporter au grand public des histoires qui ne sont pas seulement des révélations, mais de véritables appels à l'action et à la prise de conscience. Marie-Monique Robin, bonjour.
Bonjour.
Votre parcours donne le tournis, c'est l'occasion d'y revenir avec vous. Alors que cet automne s'annonce déjà très chargé avec la sortie de deux livres, un documentaire pour Arte sur les microbes qui nous protègent. Mais avant d'en parler, revenons en arrière pour évoquer votre histoire. Elle commence le 15 juin 1960. Voilà ce qui se passait ce jour-là en France.
En Bretagne, l'homme du jour, c'est Monsieur Lallouette, surnommé le pape de l'artichaut. À la tête du comité de l'artichaut, il dirige la révolte à Saint-Paul-de-Léon. Depuis 15 jours, chaque matin, au marché de Saint-Paul, c'est la même chose. 200 à 300 voitures arrivent, bourrées d'artichauts, et le dialogue commence entre les producteurs et les expéditeurs. Net, catégorique, 20 francs le kilo ou rien. Les producteurs se sont organisés. À la mairie, ils ont fait signer un arrêté réglementant le marché. Et depuis 15 jours, la matinée se termine sur le même spectacle. 4 à 500 tonnes d'artichauts invendus sont emmenées à la décharge publique plutôt que d'être laissées à vil prix. Mais aussi, par cette hécatombe vengeresse, les exploitants bretons espèrent attirer l'attention générale sur un circuit de distribution qui les livre sans défense aux aléas d'un système d'intermédiaires désuet et condamné qui n'avantage ni le producteur ni le consommateur.
Extrait des actualités françaises le 15 juin 1960. Wow. Marie-Monique Robin, vous poussiez vos premiers prix à Gouger, donc dans les Deux-Sèvres. Et à ce moment-là, le comité de l'artichaut se révolte en Bretagne.
Eh oui.
Qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est étonnant.
Vous, dont les parents sont agriculteurs, hein,
oui,
parce qu'il y a un lien quand même.
Je suis née sur une ferme du Poitou, comme dit la chanson.
Claude Nougaro.
Voilà.
Le coq et la pendule.
Il y avait un coq, il y avait une pendule, il y avait tout ce qu'il fallait. Ça m'inspire exactement ce que j'ai vu après, en fait, se passer sur ma ferme familiale et puis, bien sûr, sur la commune, très clairement. Et ce sont des choses que mon père a beaucoup dénoncé, qui était déjà en train de se mettre en place, parce qu'en 1960, voilà. Et mon père était un militant de l'Action catholique, la fameuse JAC, la JAC. Alors, c'était un mouvement d'émancipation du monde rural extrêmement puissant.
C'est la jeunesse agricole catholique.
Exactement. Et alors moi, j'ai souvent dit avec un petit peu d'humour, mon père était un responsable national, ma mère une responsable départementale dans les Deux-Sèvres. Ils sont connus lors de ces grands rassemblements de jacistes qu'on appelait les coupes de la joie.
Les couples de la joie ?
Coupes.
Ah, les coupes.
Les coupes, comme une coupe. Okay. Voilà. D'ailleurs, Jacques Brel avait écrit une chanson pour eux, l'aventure commence à l'aurore.
Bref. On va faire toute l'émission en chantant, si
voilà, on va faire toute l'émission en chantant, mais il faut chanter. En tout cas, ils se sont rencontrés à cette occasion, et j'ai toujours dit que la JAC était une énorme agence patrimoniale qui a très bien marché, et qui a donné beaucoup de militants de tout ordre, en fait, hein, parce que c'était un mouvement d'émancipation du monde rural. Alors, ça a donné d'un côté la FNSEA, après les paysans travailleurs, vous voyez, mais aussi des élus. Mon père a créé une coopérative, des CUMA, vous voyez, ou le 3e GAEC de France, pour ce qui me concerne, c'est-à-dire un groupement agricole d'exploitation en commun. On était plusieurs familles sur la même ferme, une vision assez communautaire.
Oui, soviétique presque,
oui.
Hein, pour des catholiques, vous parlez de FNSEA.
C'est ça. Quand j'étais à l'école, à Gourgé, dans les Deux-Sèvres, c'est pas loin de la Vendée, on disait que j'étais la fille du kolkhoz.
Ah oui, mais c'est ça.
Ben oui. Oui, voilà, donc, vous voyez cette vision. Alors, ces catholiques-là étaient évidemment très avait été très touché par Vatican II, 1962, vous savez, qui prône l'engagement des chrétiens dans le monde et qui disent « on peut changer le monde ». Alors moi, c'est ça qu'on m'a dit, hein, ouais. Pour résumer. Et quand on vous dit tout petit...
Vous n'avez pas oublié.
Non, j'ai pas oublié.
Ça vous a marqué ?
Ah oui, 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 je suis devenue journaliste pour changer le monde. Alors, quand on dit ça aujourd'hui, ça paraît prétentieux, hein, mais parce que voilà, c'était, on peut agir sur le monde, et on peut le faire de mille manières d'ailleurs, hein, bon, voilà. Et moi, je suis devenue journaliste pour faire, vraiment pour changer le monde, et avec cette vision aussi du journalisme au service des droits humains. Vous voyez ? Alors au départ, c'était plutôt les droits humains au sens classique. Vous avez parlé d'Escadron de la mort à l'école française, c'est un film et un livre dont je suis très fière. C'était voilà, les victimes des dictatures, vous voyez. Je suis allée beaucoup en Amérique latine dans les années 90. Puis après, ça s'est élargi, ma vision des droits humains.
Donc vous êtes une enfant de la ferme, ouais. Très clairement, qui a un lien aussi avec le film que vous sortez bientôt, on va en parler. Ce lien avec le monde agricole, Marie-Monique Robin, il ne vous a jamais quitté parce qu'il est quasiment toujours en filigrane de votre travail, non ?
Oui, parce que je pense que ce que m'ont transmis mes parents aussi, il faut bien comprendre, quand on est dans le... On est dans les années 60-70, Poitou-Charentes ou ailleurs, qu'on est fils ou fille de paysan, qu'on va au lycée, eh bien on est considéré comme des fils de plouc. Carrément. Moi j'ai plein d'anecdotes où les profs, comme moi j'étais une bonne élève, excusez-moi de vous dire ça, j'avais un an d'avance, etc. Ils disaient, ben non, cette rédaction, c'est pas possible que tu l'aies fait toi-même, parce que les paysans, ça sait pas écrire, quoi. Ah non, mais je pourrais donner le nom de ce professeur de français et de latin, je sais pas s'il a encore envie. Voilà. Mais quand on vous dit, comme mon père et ma mère faisaient, le métier de paysan, c'est le plus beau du monde, parce que sans ce métier-là, les autres n'existent pas, parce qu'il faut manger, eh bien, je peux vous dire que vous devenez rebelle, et vous enlevez la tête. Donc ouais. Voilà.
Alors, ça, mais c'est... Vous auriez pu devenir agricultrice vous-même ou il n'en a jamais été question dans votre tête,
hein ? Non, parce que alors, moi je suis l'aînée de 6 enfants, cato, hein, donc famille nombreuse. Dans la tradition familiale, parce que la ferme où je suis née, elle est dans la famille Robin, enfin sur cette commune depuis 1630.
Ah oui ?
Aussi loin que j'ai
pu. Donc c'est paysan de génération en génération.
Ouais, ouais. Quand j'avais 14 ans, j'ai pris mon petit caddie, j'étais allée à la mairie de Gourget, et j'avais regardé tous les registres qui
et
étaient
vous êtes remontée au 17e.
Hein. Ouais. Après, il n'y avait plus de registres, donc j'imagine qu'il y en avait encore des Robins. Hein. Et d'ailleurs, le dernier registre que j'ai retrouvé était écrit par un curé, évidemment, c'est avant la Révolution. Il s'appelait Michel Robin, donc j'imagine que c'était... Bon, il y a eu pas mal de curés et de religieuses dans ma famille. Enfin bref. Donc, c'est une vraie... Donc, j'ai toujours revendiqué mes racines paysannes, parce que c'est des vraies racines. Hein. C'est vraiment... J'appartiens, enfin, même mentalement, mes parents sont décédés récemment, et j'ai du mal à retourner dans ce lieu, parce qu'il y a... Mais il y a tout le passé de ces paysans, de ces femmes, de ces hommes qui ont travaillé la terre.
Et pourquoi est-ce que vous n'auriez pas pu, vous, représenter de la nouvelle génération
de... Parce que dans ma génération, eh bien, j'en fais partie, c'est l'exode rural. On fait des études, et traditionnellement, c'est plutôt le garçon qui reprend, ce qui a fait mon frère, qui est juste après moi, d'ailleurs, Jean. Il a repris la ferme, il s'est mis en GAEC avec mon père. Et moi, si vous voulez, à l'époque... Cette question ne se pose même pas. Je vais faire des études, voyez. Comme on fait beaucoup de fils de paysans dans ces générations-là. Alors, ouais. Il y en a beaucoup qui ont fait agronomie pour devenir ingénieur agronome. Moi, je ne suis pas devenu ingénieur agronome, mais voilà.
Ouais. On va parler de l'effet ferme, hein, parce que ça aussi, c'est au cœur de votre documentaire. Naître dans une ferme, ça peut aussi changer le destin sanitaire hein, des personnes. C'est ce que vous racontez, vous, dans ce doc là, qui va sortir sur Arte. Revenons quand même encore un petit peu à votre berceau familial, à ce qui vous a nourri, Marie-Monique Robin. Vous dites de vos parents que ce sont des militants, donc catholiques, mais qui ont aussi cette notion de la défense des droits de l'homme. Et ça vous imprègne profondément, alors.
Ah oui. Tout à fait. Donc très marqué par Vatican II. Et ils étaient très engagés, par exemple, l'un de leurs amis, qui était jaciste comme eux, avait immigré en Argentine dans les années 70 pour créer une coopérative. Et un jour, il a disparu, parce que coup d'État en Argentine. C'était même avant le coup d'État, en fait. Bref, et ils se sont mobilisés. Et moi, je me souviens, on vendait des ponchos. Bref. Et donc, mon intérêt, d'ailleurs, pour la question des droits de l'homme, elle vient aussi de là. C'est-à-dire, la première manif que je fais, moi, c'est contre Pinochet en 1973. Enfin, voilà, appartenait dans les Deux-Sèvres, c'était pas vraiment évident. Enfin, voilà. Vous voyez. Et eux étaient aussi très marqués par cette période qu'on a un peu oubliée, mais très noire, hein, où il y avait des violations énormes des droits humains, où les paysans étaient ciblés, d'ailleurs, hein, aussi, dans ces dictatures latino-américaines. Oui. Donc ça m'a beaucoup, oui, ça m'a beaucoup marqué. Je me suis toujours dit, je vais apprendre l'espagnol, ce que j'ai fait, d'ailleurs, après. C'est une langue que je parle couramment. Et pour cette question-là, quand je décide de devenir journaliste, c'est aussi c'est pour ça, c'est pour dénoncer les violations des droits humains. C'est ma première motivation.
Ouais. Et vos parents, donc, qui sont embarqués dans les années 60, finalement, dans ce modèle aussi naissant de l'agro-industrie, hein, qui persuade le monde qu'on va nourrir tout le monde, est-ce qu'ils sont à un moment critiques de ce modèle-là ou pas du tout ?
Alors oui, ils se sont embarqués complètement là-dedans. Modèle agro-industriel, ils sont bien à faire des grandes cultures de maïs dans un coin, complètement, c'est ridicule quoi. Enfin, le maïs, vous savez,
il faut énormément d'eau.
Il fallait à la fois, parce que la Gâtine où je suis née, il y a à la fois beaucoup d'eau, donc il fallait drainer, puis il fallait arroser. Enfin, c'est complètement, dingue. Oui. Alors, je pense que pour mon père, une anecdote, je la raconte. Je suis obligée de la raconter parce que c'est vraiment ça. Quand j'ai fait Le Monde selon Monsanto en 2008, mon père et ma mère sont venus. Arte avait organisé une grande avant-première à l'Arlequin, au cinéma à l'Arlequin. Énormément de monde et tout. On voit le film, énorme, enfin, impact, quoi. Et dans la nuit, mon père fait un malaise cardiaque. Il dormait chez moi, en Seine-Saint-Denis. Et on l'emmène au Centre cardiologique du Nord. Et là, le cardiologue dit « Monsieur Robin, vous avez eu une émotion récemment ?» Et moi, j'avais pas du tout. Ça m'émeut encore, vous voyez. Il dit « Oui, j'ai vu le film de ma fille. » Et en fait, ce film a fait, dans notre famille, comme un... Enfin, je pense que ça s'est passé dans beaucoup de familles, d'ailleurs. Hein. D'un seul coup, mon père et mon frère, d'ailleurs, qui avait entre-temps s'était installé avec mon père, avaient passé la ferme en bio, d'ailleurs. C'était... dans la foulée. Et puis, mon père dit, c'est peut-être pour ça que mon cousin, il a la maladie de Parkinson. Moi, après, je fais notre poison quotidien. On voit le lien avec les pesticides. C'est peut-être pour ça que le voisin, il a la maladie de Charcot. Et là, d'un seul coup, ça a été... Mais alors... Et en fin de vie, mon père a dit, c'est quand même très triste de voir que nous, à la JAC, nous voulions que les paysans relèvent la tête. Tenir tête aussi aux maquignons. Hein. Partenay, c'est une grande foire aux bestiaux. Créer des coopératives pour contrôler nos outils de production, partager avec des cumins le matériel pour ne pas s'endetter trop et se prêter. Et tout ça pour qu'au final, il n'y a plus que 3% de paysans en France, avec des produits qui nous ont tous rendus malades, parce qu'ils étaient bien conscients de ça. Et puis les consommateurs qui nous montrent du doigt. Et donc, il dit, mais quel désastre. Voilà ce qu'il pensait mon père à la fin de sa vie.
Ils se sont sentis stigmatisés parfois en tant qu'agriculteurs également ou pas ?
Ah bah oui, je pense que dans les... Les 20 dernières années de mon père, il se rendait bien compte que par exemple, les produits, il disait lui-même, les produits qu'on a mis dans les champs sur notre ferme avant qu'elles passent en bio, il n'était pas question de les mettre dans notre jardin, potager. Vous voyez, toutes les familles étaient dans cette espèce de dilemme incroyable, vous voyez, où on met des produits dans les champs dont on sait très bien, on sent très bien qu'ils sont dangereux, et on va pas les utiliser pour le jardin de sa famille. Vous voyez, mais moi, je n'ai jamais jeté la pierre à ces paysans-là. Alors, j'ai jamais jeté la pierre à mon père et à tous ses collègues, parce que ils ont été véritablement embarqués dans un modèle où on leur a beaucoup menti, caché des choses. Sur la toxicité des produits, c'est évident. Et ils se sont retrouvés endettés. Moi, je rappelle que sur la ferme de mon père, donc quand il y avait mon grand-père, ils n'avaient jamais emprunté un centime. Et un jour, mon père me dit, tu vois, le premier tracteur qui est arrivé sur la ferme, 1953, ton grand-père a vendu 2 vaches au marché de Parthenay. Et il dit, tu veux bien calculer combien de vaches il faudrait aujourd'hui pour acheter un tracteur ? On avait calculé, il faut 80 vaches. Et en fait, vous vous rendez compte ? Donc, le niveau de vie, globalement, si vous voulez, bien sûr, il y a les toilettes dans les maisons, etc. Mais ils travaillent de plus en plus, ils sont très endettés. Je rappelle qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours. C'est un beau désastre, et ils en sont conscients, mais c'est très difficile d'en sortir tout seul, ouais, si on n'est pas accompagné.
Très dur de s'entendre dire qu'ils ont pollué,
oui,
qu'ils ont rendu malade ou qu'ils se sont rendus malades.
Oui.
Ça aussi, c'est une des réalités du
psychologiquement,
monde paysan aujourd'hui.
C'est insupportable. Enfin, pour eux, psychologiquement, c'est insupportable. Quand vous prenez en plus, mon père, je reviens, qui disait « on va nourrir le monde », c'était un truc très cato, on va nourrir le monde, après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, voilà, c'était un objectif noble. Après, en fin de vie, il disait « mais pourquoi est-ce que nous, on nourrirait les Africains ?» Donnons à nos collègues africains paysans le moyen de se nourrir eux-mêmes. Mais c'était un beau projet, entre guillemets, voyez. Et au final, vous vous retrouvez avec, vous savez même plus ce que vous, les produits que vous vendez peuvent rendre les gens malades. C'est psychologiquement très dur. C'est pour ça qu'on peut pas faire une transition agricole sans tenir compte de tout ça. Vous voyez, du traumatisme aussi, hein, qu'il y a dans beaucoup de familles. Vous voyez.
Comment ils s'appelaient vos parents ? C'était quoi leur prénom ?
Alors mon papa s'appelait Joël et ma maman Jeanne.
La terre au carré Mathieu Vidard sur France Inter.
Marie-Monique Robin, journaliste, reporter, écrivaine, notre invitée au carré aujourd'hui à l'occasion, dans quelques jours, de la sortie d'un nouveau documentaire et d'un livre autour des microbes qui nous font du bien. On va en parler tout à l'heure. Votre transition écolo, finalement, entre cette enfance dans les Deux-Sèvres, milieu agricole jusqu'au journalisme, qu'est-ce qui se passe entre les deux?
Il se passe que je vais étudier 5 ans en Allemagne. Par un hasard de la vie, une bourse, enfin bref, et je devais partir 6 mois, je suis restée 5 ans parce que j'étais amoureuse, entre autres, bien sûr. Voilà.
Et ça conditionne souvent pour les voyages, en général. Hein.
Et c'était une période très particulière parce qu'on est à la fin des années 1970, j'ai 18 ans jusqu'à 22 ans, en gros, je vis en Allemagne, j'étudie en Allemagne, et c'est la naissance du parti Die Grünen, les Verts, et moi, j'étais pas du tout sensible encore à cette question écologique.
Vous n'êtes pas politique encore?
Non, alors je suis à gauche. Mes parents l'étaient.
Mais pas une écologie politique, en
non.
tout cas.
Bah non, parce que de toute façon, ça n'existe pas en France, en fait. Ça n'existe pas à l'époque. À l'époque, les Verts, pour moi, c'est Brice Lalonde, etc. Voilà. Et je découvre, grâce aux Verts allemands, ce qu'on appelle l'écologie politique. Moi, il a toujours été évident pour moi, mais c'était aussi toute ma formation, parce que moi, j'étais aussi dans un mouvement d'action catholique, on comparait marxisme, léninisme et christianisme, enfin, donc toute une formation, vous voyez, on se disait les injustices, les inégalités, enfin, voilà, ça, c'était présent, vous voyez, la question écologique, pas du tout, comme elle était absente, d'ailleurs, dans la pensée de gauche depuis le 19e siècle. Hein. Et en Allemagne, ces Grünen, font ce qui me manquait, moi, en fait. Hein. Ils mettent le doigt là-dessus, c'est-à-dire que c'est l'effondrement écologique qui déjà ils pressentent, qui est en cours déjà, est indissociable du capitalisme, d'un modèle économique fondé sur le profit à court terme, n'est-ce pas? Et c'est lié aussi aux injustices, aux inégalités.
Rien n'a changé depuis 50 ans. Hein.
Voilà. Et j'entends ça, et entre autres, à travers une femme qui, moi, m'a subjuguée, personne ne la connaît en France, Petra Kelly, elle s'appelait, et qui était la fondatrice du Parti des Verts en Allemagne, et en plein mouvement pacifiste, qu'à l'époque c'était l'histoire des fusées de moyenne portée que l'OTAN voulait utiliser en Allemagne. Alors moi je faisais un DEA là-dessus, le mouvement pacifiste, et elle était aussi très en pointe du mouvement pacifiste.
On va écouter un extrait d'un documentaire qui s'appelle Act Now, où l'on parle précisément de cette figure du militantisme allemand, Petra Kelly.
Être là pour tous les êtres vivants qui n'ont pas de lobby, c'était ça sa vision.
Nous allons faire cette résistance pacifique au Parlement allemand au Bundestag.
La base est enthousiasmée par ces idées de Madame Kelly. Ce qu'on sait aujourd'hui sur les conséquences de la politique environnementale, sur les conséquences de la politique agricole, sur les conséquences de la politique énergétique, en fait, nous le savions dès la fin des années 70.
L'héritage de Petra Kelly, ce n'est pas tant son nom ou son histoire que les graines qu'elle a semées dans le monde.
Marie-Monique Robin, une figure peu connue en France, hein, Petra Kelly.
Oui, peu connue, tout à fait, féministe aussi. Donc elle faisait aussi le lien, c'était parfait pour moi, avec le féminisme, l'écologie, les inégalités, le capitalisme, le productivisme, vous voyez. Et tout ça, pour moi, c'était vraiment, ça a été très, très lumineux. Elle parlait aussi beaucoup d'un livre que j'ai lu, du coup, en Allemagne, qui était le rapport du Club de Rome de 1972, Halte à la croissance en français. Oui. Et pour moi, je le lis en 1978 en Allemagne, parce que je suis à fond là-dedans, et c'est aussi pour moi évident qu'on ne peut pas continuer à produire toujours plus, consommer toujours plus alors que les ressources de la planète sont limitées, que sa capacité à encaisser les déchets que nous produisons est aussi limitée. Donc vous voyez, tout ça, ça a été très formateur pour moi. C'est comme ça d'ailleurs que je décide de faire une école de journalisme à Strasbourg, parce que c'est pas loin de l'Allemagne, ça me permettait de continuer à aller, vous voyez, en Allemagne, et petit à petit, de réfléchir à ce que sont les droits humains, en fait.
Ça vous inspire quoi, le fait que 50 ans plus tard, finalement, les messages sont exactement les mêmes de la part de ceux qui, justement, dénoncent le capitalisme? 50 ans, 5 décennies?
Ah bien sûr.
Il s'est rien passé ou il s'est quand même passé des choses?
Il s'est passé, entre-temps, quand même. Je disais que l'impératif écologique n'était pas présent dans la pensée de gauche depuis le 19e siècle. Si, maintenant, ça y est, elle a été intégrée, mais il a fallu un temps fou, quoi. C'est-à-dire, toutes les années 80, 90, moi, il y a des auteurs qui m'ont beaucoup éclairé, mais je désespérais de voir, vous voyez, qu'on fasse ce lien entre, eh bien, d'un côté, les fins de mois difficiles, et puis la fin du monde, comme on dit aujourd'hui, quoi, vous voyez, qu'on arrête d'opposer la crise sociale, économique et la crise écologique, vous voyez, et y compris dans les centrales syndicales, en France, par exemple, parce qu'entre-temps, je suis revenue vivre en France, ou dans les partis politiques. Moi, je suis la marraine, par exemple, d'un collectif contre le triangle de Gonesse, c'est un maire socialiste à Gonesse, qui voulait son... Enfin bref, vous voyez, c'est-à-dire cette vision aussi productiviste, qu'il faut absolument produire toujours plus...
La consommer. 69, hein, c'est un autre exemple quand même, bah oui, soutenu aussi par des socialistes quand même.
Oui, hein. J'y suis allée aussi pour les soutenir, mais vous allez chez la marraine d'un autre collectif à Serré, ils veulent faire un pont en pleine zone Natura 2000, enfin vous voyez...
Donc vous allez partout, quand on vous appelle, vous venez, Marie-Monique Robin ?
J'essaie, et je pense que je vais faire de plus en plus, en fait, parce que...
Elle voilà. est plus sur le terrain ?
Oui.
Enfin, vous y allez énormément déjà pour vous.
J'y vais déjà beaucoup, oui. Mais
plus en militante ?
Oui. Oui. Peut-être que je vieillis un peu, vous voyez.
Mais qu'est-ce que ça dit de votre parcours, ça ? Parce que, est-ce que vous vous considérez comme journaliste militante aujourd'hui ?
Alors, vous savez, le mot militant, celui qui me l'a collé, c'était Monsanto en 2008. Il voulait, bien sûr, dire que je n'étais pas une vraie journaliste parce que j'étais une militante. Alors, moi, j'ai depuis retourné le truc, hein, parce que milito, en latin, c'est partir en guerre. Moi, j'estime que tous les journalistes devraient partir en guerre contre la désinformation, le mensonge organisé, etc. etc. Et il y a du boulot, hein. Vraiment, il y a du boulot. Hein. Donc, on devrait tous être des militants, première chose. Deuxième chose, nous sommes le quatrième pouvoir. Ben, tous ceux qui nous écoutent savent que les trois premiers pouvoirs, ben, législatifs, etc., sont censés œuvrer pour l'intérêt général. Si on en doute, eh bien, c'est grave, parce qu'on est en pleine crise démocratique, si on doute de ça, vous voyez. Mais nous, si on est le quatrième pouvoir, nous devons aussi œuvrer pour l'intérêt général.
Sauf qu'il y a plein de journalistes écologistes, d'ailleurs, qui ne souhaitent pas être assimilés à des militants et qui le revendiquent aussi très fort.
Oui, mais je dis que nous sommes le quatrième. D'ailleurs. Je le retourne comme ça, le quatrième pouvoir. Alors après, le débat il porte aussi sur le fait qu'on peut... Vous savez, on parle de la subjectivité et de l'objectivité.
Un journaliste n'est jamais objectif ?
Non. On ne peut pas être totalement... Enfin, on doit assumer sa subjectivité. Parce que vous êtes Mathieu, je suis Marie-Monique. On a nos histoires, nos passés, etc.
Oui, mais ça, on ne l'a pas à l'imposer aux auditeurs ou aux auditrices.
Non, mais en revanche, donc on ne peut pas faire comme si on mettait un trait sur ce qu'on est. Parce que je pense que ce n'est pas possible, ça. En revanche, il faut une grande rigueur. Et moi, je suis... Vraiment pour ça, même ça me pourrit la vie, hein, je vous dis franchement, hein, parce que faire ces films que je fais depuis des années et ces livres, c'est beaucoup de travail. Enfin, y a plein de coups à prendre, boum boum. Il y a des Kalachnikovs qui vous attendent à tous les coins. Il faut être hyper vigilant sur les sources et tout. Donc vous voyez, la rigueur est absolument importante.
Mais vous êtes dans une forme de journalisme aussi très particulière quand même, Marie-Monique Robin, celui d'une investigation dans un secteur aussi particulier, en tout cas depuis quelques années, plutôt autour de l'écologie et des droits humains, mais c'est quand même aussi une niche en soi.
Oui, mais j'ai pas fait que ça non plus. Hein. J'ai fait les 100 photos du siècle pendant 2 ans, vous voyez, c'est une série pour Arte, un livre. Je fais beaucoup d'investigations, c'est vrai, donc c'est vrai que c'est particulier, mais il n'empêche que je pense que nous devrions tous, nous, et encore plus aujourd'hui, où véritablement nous sommes dans une situation d'urgence absolue, je ne l'aurais pas dit il y a 5 ans, je le dis aujourd'hui, le climat, c'est absolument dramatique la vitesse à laquelle il est en train de se détraquer. La biodiversité sur laquelle je travaille depuis 4 ans, vous vous rendez compte qu'on parle de la 6e extinction des espèces, la 5e c'était il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu, 82% de la biodiversité, et on est là tranquille à annoncer à la radio, excusez-moi, la 6e extinction des espèces est en marche, 80% des insectes ont disparu, 70% des vertébrés, et on est quoi nous ? On n'est pas des vertébrés, enfin c'est absolument inouï, donc ça va très vite. Ça fait très peur, en fait. Et puis, tout ce fardeau sur lequel je travaille depuis des années aussi, quand même, la détérioration des conditions de vie, de l'eau, enfin, vous voyez, les maladies qui vont avec. Enfin, voilà. Donc, c'est lourd, quoi. Hein. Et ça tombe sur notre génération, en fait, parce que, et en particulier sur la mienne, qui est née en 60. Moi, j'ai vu tout ça à l'œuvre, dans tous mes voyages, depuis 40 ans que je fais le tour du monde.
Et ça vous donne envie d'aller plus sur le terrain en tant que militante et de laisser un peu de côté votre carte de journaliste ?
D'abord, j'ai 64 ans, peut-être qu'un moment, enfin voilà. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quel type d'action on peut avoir pour stopper ce qui est en cours.
Ça vous fait mal d'employer cette expression.
Oui. Non, c'est compliqué, voilà. Et que quand on relit l'histoire, je lis beaucoup d'historiens en ce moment, on se rend compte que dans des grands moments de basculement, où ça bascule, une idée minoritaire devient majoritaire, des actions qui étaient illégales à l'instant T étaient légitimes au regard de l'histoire. Ils avaient raison avant tout le monde. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent se poser cette question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, quoi, hein ?
Mais ils sont nombreux à se la poser, d'ailleurs.
Oui, c'est légitime. Et je donne l'exemple de l'avortement. Vous savez, quand les 300 et quelques salopes là, font la une de l'Obs.
Ouais.
Elles ont toutes dit qu'elles avaient avorté. C'était illégal et on risquait la prison, etc. Deux ans après, la loi est changée. Et ce qu'elles avaient fait était totalement légitime. C'est grâce à leur action illégale que la loi obsolète a changé. Voyez ? Donc, moi, je me demande si mon rôle, ça ne sera pas maintenant, parce que j'ai fait. J'ai 200 œuvres déclarées à la SCAM, j'ai fait une quinzaine de livres, c'est pas. D'accompagner plus tous ces gens qui ont compris qu'il faut bouger. Moi, ce qui me fait peur, c'est la violence, par exemple. Et je crains qu'il y ait des débordements de violence, parce qu'en plus, les réponses en face sont quand même très violentes. Voyez, réfléchir au mode d'action qu'on peut avoir en cet anthropocène.
Marie-Monique Robin, on va écouter un extrait du Monde selon Monsanto.
Alors, c'est bien du Roundup, des herbants, grands travaux. Fais gaffe qu'on n'en reçoive pas dans la figure.
Je suis pas un assassin. Hein.
Utilisé selon le mode d'emploi, Roundup ne présente pas de risque particulier pour l'homme, les animaux domestiques et leur environnement.
Marque déposée de Monsanto, fabriquée en Belgique.
Si tu vois des escargots, t'en mets pas dessus, hein, parce qu'ils seront immangeables. Hein. Alors attention, fraisier. Hein.
Le Monde selon Monsanto, mars 2008, première diffusion sur Arte. Le livre, tout a été traduit dans plein de pays, ouais. Ça a été un choc énorme. Ouais. Vous devenez officiellement une lanceuse d'alerte quasiment à l'époque. Qu'est-ce qui vous donne la force, vous, à ce moment-là, de vous attaquer au mastodonte Monsanto ? Parce que là, c'est quand même David contre Goliath, cette histoire. Hein. C'est la petite journaliste française contre l'énorme groupe agrochimique Monsanto.
Parce que je devais être un peu naïve, en fait. Puis porté par ce truc, on peut changer. Vous voyez, c'est un moteur, en fait, hein, quand même. Ça m'habite, mais c'est un moteur.
Vous n'oubliez pas l'enfance, on peut changer le monde.
Oui. Ouais. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que j'aurais pu avoir beaucoup d'ennuis, mais en fait, vous l'avez dit, ça a eu un tel succès, ce film et ce livre, les livres traduits en 30 langues et tout ça, qu'en fait, ça m'a protégée, en fait.
Voilà. Mais vous avez été menacée, vraiment ?
Non, je n'ai pas été menacée par Monsanto. Et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est. D'abord, j'ai, par exemple, petite anecdote, quand j'étais au Canada, que le film et le livre sortent, donc plein d'interviews avec mes attachés de presse, et à la fin, la dernière journaliste me dit « Je suis la meilleure amie de la PR, donc celle qui s'occupe de la communication de Monsanto Canada. » « Ah, j'ai eu un interesting indeed, très intéressant. » Elle me dit « Ils ont payé un cabinet d'avocats pour revoir votre livre, qui est sorti en anglais, et trouver une erreur. » Vous voyez, ils ont essayé de trouver des failles. Pour, selon une technique bien connue, on trouve une faille, on s'engouffre dedans, et après, on jette le discrédit sur tout. C'est pour ça que je disais la rigueur. La rigueur, c'est... et ça, c'est chiant, hein, parce qu'on n'endort pas la nuit.
Parce que la moindre erreur peut être fatale, surtout face à des géants comme ça.
Ah bah oui.
Et donc, il n'y a pas eu de procès, il n'y a eu aucun procès contre vous ?
Aucun procès. Ils ont essayé, j'ai eu plein d'anecdotes, de trouver cette faille, ils ne l'ont pas trouvée. Ils ont essayé de me discréditer en disant que j'étais une militante. Ils ont essayé... Enfin, voilà. Mais j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de soutien, parce que j'ai quelques ennemis puissants, mais j'ai beaucoup d'amis.
Marie-Monique Robin, alors il y a les procès aussi, évidemment, des victimes, vraiment dans leur chair aussi, des paysans qui ont utilisé les produits de Monsanto. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de tous ces procès? Certains ont été retentissants. Au début de l'année, un Américain avait gagné 2 milliards de dollars et en fait, l'entreprise a fait appel. Et le 12 septembre dernier, on a appris que le jury de Philadelphie se prononçait en faveur de Monsanto Bayer. Donc, ça veut dire que les choses ne sont pas gagnées, mais qu'il y a énormément de procès en cours. On en est où, là?
Quand j'ai fait le round-up face à ces juges, ils étaient quelques milliers. Et là, ils sont 150 000 regroupés en class action. C'est énorme. On se demande même si, vu les premiers jugements, si ça peut signer la fin de Monsanto Bayer. Je ne pense que ça ne le fera pas, parce qu'ils vont trouver des manières d'échapper à ça. Mais, bien sûr. Mais n'empêche que le glyphosate vient d'être réautorisé pour 10 ans par la...
À l'échelle européenne.
À l'échelle européenne. Mais c'est ça qui est un peu... C'est ça qui est un peu désespérant, en fait. C'est que vous avez tous ces scientifiques qui font un travail remarquable. Moi, je passe mon temps à rendre hommage au travail de ces scientifiques indépendants. J'entends par indépendant un scientifique qui, dont le revenu n'est pas lié
à une industrie.
Oui, ou au résultat de son étude. Mmh. Voyez, et qui œuvre pour l'intérêt général. Il y en a encore beaucoup qui le font. Eh bien, ils font tout ce travail. Moi, je fais le boulot de relayer toutes ces études. Et puis voilà, vous avez toujours là. Vous avez vu ce qui s'est passé.
Donc, le poids des lobbies.
Le problème des agences européennes.
Entre les politiques aussi et les entreprises.
Oui, bien sûr. Le fait que dans l'EFSA, par exemple, qui est l'Agence européenne de sécurité des aliments, eh bien, il y a des experts qui sont liés à l'industrie, c'est des conflits d'intérêts évidents. C'est difficile hein, pour tous ceux qui font ce travail comme moi, et des ONG aussi. Enfin, on a parfois l'impression que c'est... Enfin, on ne va pas y arriver, quoi.
Marie-Monique Robin, votre terre natale, les Deux-Sèvres, c'est aujourd'hui le théâtre d'une bataille pour l'eau face aux méga-bassines. Vous avez été, dès le départ, partie prenante du combat. Oui. Est-ce que cette lutte contre l'accaparement de l'eau peut être gagnée aujourd'hui, à votre avis?
Ça dépend un petit peu. Il y a un moment, on a besoin d'une volonté politique claire et nette, qui ait compris tout ce que les scientifiques ont dit partout dans le monde sur le climat, sur la biodiversité, sur l'eau, sur la terre, sur le sol, sur les aliments, etc. Et qui disent, ça y est, on change de cap. S'il n'y a pas cette volonté politique pour les bassines des Deux-Sèvres, j'en veux moins finalement à la centaine de maïsiculteurs qui veut continuer d'avoir de l'eau pour arroser son maïs, que à la région Nouvelle-Aquitaine qui encourage cette fuite en avant. C'est à eux, enfin, ce sont les politiques qui devraient dire à ces agriculteurs, le maïs dans les Deux-Sèvres, c'est plus possible. Vous savez, c'est une région où il y a beaucoup de problèmes d'eau, hein. Ce n'est plus possible. Mais on va vous encourager, on va vous aider à avoir une autre vision de l'agriculture. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, il n'y a pas de vision pour l'instant.
Ah non, il n'y a pas de vision.
Cap qui est donné pour en sortir.
La vision, c'est toujours la même. C'est-à-dire, c'est celle qui est portée par la FNSEA, il faut le dire clairement, le syndicat majoritaire de l'agriculture, qui est dans une démarche totalement industrielle de l'agriculture, très liée aux grands semenciers comme Monsanto, à travers les coopératives qui ont été dévoyées de le... Parce que mon père, quand il créait sa coopérative dans les années 60, c'était pas du tout dans l'intention qu'elle devienne une multinationale, vous voyez, comme sont de grandes coopératives agricoles. Donc, pour l'instant, on n'a pas de volonté politique de travailler ensemble pour voir une autre issue possible.
On voit la répression s'abattre sur les militants également, hein, de ces méga-bassines, mais la criminalisation en général d'ailleurs des mouvements, on a vu en Angleterre récemment hein, des peines de prison contre les militants de Just Stop Oil. Qu'est-ce que vous auriez à dire au nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, à ce sujet?
Ah bah écoutez, là, franchement, quand j'entends qu'il dit, il parle de barbarie, bah oui, la barbarie, c'est quand on va... tirer, excusez-moi, il va me faire un procès, sur ceux qui manifestent pour les bassines. Bien sûr, la barbarie, elle n'est pas là où il pense, enfin, il prétend qu'elle est. Je lui dirais qu'il faut lire Rachel Carson, par exemple, qui m'a beaucoup inspirée.
Le printemps silencieux.
Le printemps, non mais, voilà, et qu'il faut... Il vient de vendre. Enfin, il faut absolument regarder ce qui est en train de se passer un peu partout et sortir de ce prêt-à-penser qui appartient à un monde complètement obsolète. Voilà.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Quand je rentrais de l'école puis que j'étais tout petit, ben, j'allais directement à la ferme voir mon père qui était dans les champs. Je jouais dans le foin, oui, puis je m'occupais un peu des vaches aussi, oui. Parce que j'aime bien les animaux, j'aime surtout bien les vaches.
Thomas, quand il était tout petit, à l'âge de 3 ans, il dormait dans le tracteur.
Oh non, même avant.
Ouais, même avant.
Il va être paysan depuis tout petit, lui. Ouais. C'est vrai que ça nous fait chaud au cœur quand on voit nos gosses. C'est une passion, quoi. C'est vrai que par rapport à l'étude, Thomas n'est pas allergique à quoi que ce soit.
J'ai pas d'asthme et puis j'ai pas d'allergie, non.
La voix de Thomas, celle de ses parents, dans une ferme de Franche-Comté. Marie-Monique Robin, extraite de votre nouveau doc, Vive les microbes. Ça sort le 3 octobre.
Le 8 octobre.
Le 8 octobre sur
à 20h50.
Arte. Et puis la plateforme, évidemment. L'enfant ferme, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est au cœur vraiment de ce documentaire. Qu'est-ce que vous nous racontez, là?
Alors, ce qu'on appelle l'effet de la ferme, ça a été très bien démontré, parce que cette famille qu'on vient d'entendre, elle a fait partie d'une étude qui a duré 20 ans, l'étude Pâture, donc c'est pas rien. Une étude longitudinale, on a suivi la maman depuis le troisième trimestre de sa grossesse jusqu'à la majorité de l'enfant, en étudiant tout. Quoi,
hein. Tout, même les draps, hein, même le matelas, tout.
Le matelas, tout. On a prélevé les poussières ouais. qu'il y a dans le matelas, enfin tout. Et tout ça pour conclure, et on a fait ça aussi dans 4 autres pays européens, c'est 5 pays européens, donc c'est une très très belle étude, plein de publications, plus de 80. Eh bien, le résultat, c'est que les enfants qui sont nés dans les fermes traditionnelles, laitières, où les vaches mangent de l'herbe et du foin, où les enfants vont régulièrement en contact avec l'environnement, et notamment l'étable, et consomment du lait cru, fromage, etc., n'ont pas d'asthme ni d'allergie. Et c'est démontré entre-temps par une quarantaine d'études internationales, c'est ce qu'on appelle l'effet de la ferme. Et ils ont bien sûr essayé de comprendre pourquoi.
Alors c'est quoi cet effet ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Parce qu'il faut bien comprendre que pour le point de départ, c'est quand même qu'il y a une explosion de l'asthme et des allergies, n'est-ce pas ? On est passé de moins de 3% il y a 50 ans de la population...
À l'échelle mondiale, hein, tout ça.
À l'échelle mondiale, à plus de 35%, et l'OMS parle d'une personne sur deux.
50%, oui. Ouais, les personnes seraient allergiques.
Et partout dans le monde, les scientifiques, c'est ce qu'on voit dans le film, se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Voilà. Et ils ont essayé de comprendre. D'abord, est-ce que c'est quelque chose qui est apparu et qui, voilà, ou quelque chose qui a disparu ? En fait, ce qui a disparu, c'est le contact des enfants, notamment ceux qui vivent dans les villes, évidemment, avec tous les bons microbes de l'environnement. Et en fait, les microbes de la ferme, notamment des fermes laitières, sont d'excellents protecteurs de ces maladies d'origine inflammatoire. Parce que quand un enfant entre en contact avec les bactéries, les champignons, pénicillium, par exemple, qu'on retrouve dans les étables, eh bien, cela enrichit son microbiote intestinal, n'est-ce pas ? Et ça stimule son système immunitaire, parce qu'en fait, pour que le système immunitaire soit bien éduqué, il faut qu'il soit confronté à plein de microbes. C'est ça qui va faire qu'à un moment, il fera la différence entre une molécule dangereuse et une molécule qui n'est pas dangereuse. Et malheureusement, ce n'est plus le cas dans les milieux urbains. Trop de bétonisation, pas assez d'animaux, pas assez de plantes, trop d'hygiène, trop d'aliments transformés, industriels. Plus de biodiversité dans les cours de récréation, plus. Et résultat, eh bien, les microbiotes de ces enfants sont très pauvres et ils sont donc propices à développer des désordres inflammatoires sous forme de...
Il y avait une étude aussi qui avait été faite sur la Finlande, où vous êtes allé enquêter aussi. Oui. Hein, on voit un même village qui a été coupé en deux au moment du mur, et où l'une partie du village est devenue très industrialisée, et l'autre très rurale, est restée vraiment dans son jus agricole, paysan. Et là, il y a aussi des effets très notables. C'est d'ailleurs de là que viennent les premières études, les premiers intérêts.
Tout à fait. C'est même au niveau d'une région, hein, parce que c'est une région qui a été coupée en deux après la Seconde Guerre mondiale. La Finlande a perdu une partie de sa Carélie. C'est l'Union soviétique qui l'a récupérée pour l'une de ses républiques de Carélie. Et effectivement, même chose, 20 ans d'études, on découvre que du côté russe, il n'y a pas d'asthme, pas d'allergie, parce que c'est un modèle familial d'agriculture, d'autosubsistance encore, vous voyez, avec... plein d'animaux différents, des cultures, des arbres, etc.
Donc de la diversité.
Et voilà. Et c'est de là que part le concept de l'hypothèse de la biodiversité qui a été donc développée par ce professeur Aatela que j'ai donc interviewé en Finlande et qui aujourd'hui est reconnue par l'Organisation mondiale de l'allergie comme l'explication principale de l'explosion de l'allergie et de l'asthme.
De l'énergie ou de la santé, l'Organisation mondiale de la santé.
De l'allergie. Et donc... c'est très intéressant parce qu'on voit aussi que c'est pas uniquement l'asthme et l'allergie, c'est aussi les maladies de Crohn, c'est aussi l'obésité, comme on voit dans le film, dont on découvre que finalement c'est aussi une maladie liée à un dysfonctionnement du microbiote, on appelle ça une dysbiose, n'est-ce pas, une maladie inflammatoire. Et le diabète, la maladie de Crohn, enfin, toutes ces maladies qui sont de plus en plus courantes dans toutes les familles de France et d'ailleurs, et dont l'explosion a été constatée d'abord dans les grandes villes des pays occidentaux et aujourd'hui, ça arrive aussi dans les pays du Sud.
On va réécouter un extrait justement de votre documentaire, toujours dans cette ferme de Franche-Comté avec cette famille d'agriculteurs.
Pendant que j'étais enceinte, je suis venue à plusieurs reprises, pas forcément quotidiennement parce que j'ai un travail à l'extérieur, mais je venais aider mon mari quand on affourageait, donc donner le foin, au niveau du paillage, au niveau du vidage de fumier, et puis pendant la traite, quoi.
La première année de vie est très importante pour le microbiote. Si on a raté ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Et c'est le cas de la plupart des enfants des pays dits développés, c'est-à-dire les plus urbanisés, les plus riches, les plus propres, les moins au contact de la nature. Il y a eu vraiment un lien immédiat et direct entre système immunitaire et microbiote. Pas de microbiote, pas de système immunitaire.
Voilà, on peut donner le nom de cette scientifique, Madame Vuitton.
Dominique Vuitton, voilà. Immunologue et membre de l'Académie de médecine.
Voilà, qui a donc travaillé aussi sur cette question. Qu'est-ce que ça nous dit finalement ? C'est que la médecine aurait tout intérêt à se rapprocher de l'écologie pour essayer d'avancer sur la compréhension des pathologies ?
Ah oui, alors c'est ce que disent eux-mêmes les scientifiques, parce qu'en fait, s'ils ont pu faire leur conclusion, c'est qu'ils ont travaillé en interdisciplinaire, ils ont cassé les silos, vous voyez ? Donc les médecins ont travaillé avec les allergologues, ils ont travaillé avec les écologues, très important. Et donc oui, bien sûr. Si on veut résoudre ces grands problèmes de santé planétaire, hein, parce que bon, c'est déjà ce qui était dit d'ailleurs dans la fabrique des pandémies, la première partie de mon enquête, on voyait que c'était la même.
Mais sauf que comment on fait, Marie-Monique Robin ? On installe une vache dans la chambre des enfants avec une botte de foin ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Ouais, vous avez vu à l'université de Munich, du coup, comme ils ont identifié les bonnes bactéries de la ferme et les bons champignons, ils sont en train de développer un spray nasal pour faire pchit dans le nez des bébés qui naissent dans les villes pour que leur intestin soit colonisé par ces bonnes bactéries de l'État. Vous vous rendez compte ? Quelle revanche pour moi, la fille de paysan, à qui on disait qu'on était des ploucs et des cutéreux, vous voyez ? Eh bien, mine de rien, en fait, c'est une question de mode de vie, indépendamment de... C'est une question de mode de vie. Il va falloir qu'on repense l'aménagement urbain, l'aménagement rural. Il faut revégétaliser les cours de récréation, par exemple. C'est ce qu'on découvre aussi dans le film. Et c'est encore une fois une volonté politique. Voilà.
Et c'est l'objet de ce documentaire, donc le 8 octobre sur Arte, et un livre qui paraît aux éditions de La Découverte, « Vive les microbes, comment les microbiomes peuvent protéger la santé planétaire ». Et puis également votre actualité, « Ces animaux qui nous protègent », je voudrais en dire un tout petit mot rapidement, parce que Valentine Plessis signe les dessins qu'on voit d'ailleurs aussi dans vos documentaires, dans vos deux derniers en tous les cas, et c'est un coup de chapeau aussi pour son travail de dessinatrice. On a mis d'ailleurs des images à découvrir en story sur Instagram.
C'est un magnifique livre où on va découvrir que notre destin, nous, humains, est lié à celui des animaux.
Et donc, il y a tous ces dessins exécutés par Valentine Plessis. Marie-Monique Robin, est-ce que l'écologie va triompher, à votre avis ?
Moi, je l'espère, mais je voudrais dire une phrase qui m'habite beaucoup de Rachel Carson, qui a donc fait Le Printemps silencieux. « Je ne pourrais vivre en paix si je me taisais. » Il faut se dire qu'on va y arriver. On n'a pas d'autre option et on va y arriver.
Merci beaucoup. On termine là-dessus. Vous étiez notre invité au carré.
Bonjour, la Terre au carré, c'est Cécile d'Annecy. Je suis indignée par la décision que vient de prendre l'Union européenne d'abaisser le statut de protection du loup. J'invite ces décideurs qui ne savent pas quel rôle primordial a le loup dans l'équilibre des écosystèmes et du maintien urgent de la biodiversité à regarder de près le travail que fait le biologiste et éthologue Jean-Marc Landry pour la protection des troupeaux en cohabitation avec le loup. Allez, belle journée à vous.
Jean-Claude de Toulon. Bonjour la Terre au carré et merci pour tout. Je voudrais réagir au propos d'Anthony sur votre répondeur de mercredi. En effet, outre que ce monsieur, avec son autoroute, continue dans son fantasme d'un monde révolu et ne peut donc pas comprendre la situation alarmante de la planète, il est allé chercher le nombre de tués sur une route, comme si les hommes n'y étaient pour rien, laissant par là même la route seule coupable. Par ailleurs, sauf erreur de ma part, il me semble que vous n'avez pas traité dans cette émission la question des banques qui se présentent comme écologiques. À part quelques banques qui pratiquent le greenwashing, il existe des banques qui ont de réelles vocations à encourager l'écologie. Ce serait peut-être intéressant de creuser. Merci, bonne journée.
Bonjour, c'est Marie de l'association La Tête dans le Sable à Saint-Colomban, au sud de Nantes, en Loire-Atlantique. Pour vous informer que nous organisons avec les Soulèvements de la Terre une manifestation ce samedi 28 septembre à Saint-Colomban. Nous luttons contre les industriels du béton et contre l'agro-industrie qui envahissent, pillent, polluent notre territoire. En effet, le paysage de bocage est remplacé par une mer de sable, de serre chauffée et de bâches plastiques. Un désert agro-industriel ultra spécialisé. Fermer le robinet du sable est la seule solution pour sérieusement développer des alternatives au béton et pour stopper l'accaparement des terres par l'industrie légumière. Samedi, nous fêterons le retrait de la farge sur le territoire et, face à la persistance de GSM et des maraîchers industriels, nous manifesterons notre détermination à enrayer ce modèle. Donc rendez-vous à 13h ce samedi 28 septembre, au lieu-dit Le Redour.
Oui, bonjour, c'est Martial Lemeur à Guébné-Pinfond, en Loire-Atlantique. C'est en réaction du discours de Timothée Paric, économiste de la post-croissance sur l'effet rebond. Rien de nouveau, tout cela est bien documenté et relayé déjà depuis des années. Nous savons tous que les changements doivent être collectifs et politiques. Mais prêcher la sobriété pour après diffuser la vidéo sur Internet est contradictoire. Cela participe justement à la croissance du désastre. Quant à Cyril Dion qui se désole sur votre antenne et ne parle que maintenant de sobriété, c'est bien, mais un peu tardif. Vous remarquerez que jamais le mot interdit de décroissance n'est prononcé. Est-ce un tabou d'inviter enfin après 20 ans d'existence le journal La Décroissance ? Je n'écoute pas quotidiennement l'émission, mais avez-vous invité Célia Isoard, journaliste et écrivaine du livre La ruée minière au XXIe siècle, paru aux éditions écossaines du Seuil ? Après l'avoir lu, peut-être cela freinera les ardeurs aveugles des tenants de la prétendue transition énergétique. Merci.